Bonjour, Marco, conte à rebours. Conte à rebours, eh bien oui, ce sont des histoires, des contes, des légendes, tout un tas de choses. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, on va entendre des contes paniques, parce que c'est le titre d'un ouvrage d'Alejandro Jodorowsky, Contes paniques. Panique, la panique, qu'est-ce que c'est au juste dans la tradition, enfin plutôt dans l'Antiquité, hein, la panique, dans l'époque des Grecs, il y avait le dieu Pan, c'est lui qui provoquait la panique. Et la panique, c'était quoi? C'était tout simplement, hein, quand les satyres sortaient du bois, c'était le réveil des forces printanières. Bon, c'est pas encore la saison, hein, ça va venir. Et certaines étaient en panique à ce moment-là. Conte panique. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de cet ouvrage? Allez. Un recueil de fables drôlatiques, pleines d'un humour décapant et de contes surréalistes, tout à fait dans la veine du théâtre panique que l'auteur avait fondé avec Arabal. Et oui, rappelons-nous, il y avait aussi Topor dans l'histoire. Derrière la dérision des situations mises en scène dans ces contes fantasmagoriques, on retrouve l'immense sagesse de cet auteur inspiré, qui bricole l'absurdité de notre monde pour nous donner une amusante leçon de savoir-vivre. Eh oui, c'est bien dit, hein. Alejandro Jodorowsky, donc l'auteur de ces contes, est présenté ainsi, artiste multiforme. Il écrit des romans, des scénarios, des films, des bandes dessinées, des essais. Il a publié un grand nombre d'ouvrages, je vais pas tous les lire là. Donc, toutes les BD de Lincal Noir et de John Defoe qui l'ont fait un peu connaître, disons, on va dire, dans un public plus large. Donc, deuxième fournée de ces contes paniques. Alors j'en ai choisi pas mal aujourd'hui parce que globalement ils sont très courts ces contes. Hein. Même ces contes donnent un peu l'impression d'être des résumés de contes, voire même des fois des simples conclusions de contes. Donc c'est assez bref. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus épais, notamment cette merveilleuse histoire du dernier ogre. Rendez-vous compte, l'histoire du dernier ogre, hein, qu'on n'avait jamais conté, bien va être contée aujourd'hui. Les musiques aujourd'hui aussi seront de Nick Bertsch, je ne sais pas comment on prononce Bartsch ou Bertsch, en tout cas des musiques qui sont très adaptées à ces contes paniques. Et on va commencer par un conte ultra court, hein, vous allez voir à quel point ils peuvent être courts. Je vais tout d'abord vous conter cette histoire qui s'intitule Épistémologie. Avec tristesse, le caméléon prit conscience que, pour connaître sa véritable couleur, il devrait se poser dans le vide. Le dernier ogre. Il avait beau dormir près de la cheminée, vêtu de son uniforme d'apparat couvert de la cape de défilé, de la courte pointe vert-de-gris et de l'épais étendard de sa section de torture, l'ogre souffrait du froid en hiver. On lui avait donné un appartement en face du piquet de carabiniers pour que les voisins, qui refusaient de croire que la vieillesse l'avait diminué, ne craignent pas pour leurs enfants. Le plafond bas de cette construction moderne l'obligeait à marcher courbé. Les centaines de jambons qui épaississaient les murs ne lui laissaient qu'un étroit passage allant du fauteuil renforcé à son immense lit. Une longue lettre du ministre de la Guerre au ministère de la Santé publique, expliquant le grand danger qu'il y avait à le garder à jeun, lui avait obtenu la nourriture sollicitée. tous ces jambons. Chacun, il en dévorait un par jour, sauvait un enfant. En remerciement de cette faveur, il permettait que de 10h à 11h du matin, conduit par des prêtres et des officiers, lui rendent visite des groupes d'écoliers qui lui offraient timides, mais fascinés, quelques chocolats. Lui les acceptait pour dissimuler la salive qui emplissait sa bouche devant le parfum de ses chairs tendres. De la sorte, insatisfait, le reste de la journée lui était insupportablement long. La musique ne pouvait lui servir de consolation, car il avait beau s'appliquer à faire des gestes délicats, ses grandes mains brisaient violon et clavier. Même pas la peine d'imaginer avec cet hypocrite gouvernement démocratique qu'on pût le laisser se divertir en dépeçant quelques prisonniers politiques. Les livres aurait pu être sa meilleure compagnie, mais par honte de demander d'énormes loupes, il cacha sa myopie. Quand les cadets de l'école militaire venaient l'observer, il prenait la Bible et, arborant un sourire béat, il faisait semblant de lire, comme si cette activité remplaçait amplement l'absence de l'ogresse qui aurait pu l'aider à construire une agréable famille de bourreaux. La veille de la visite annuelle du président et de la première dame, il venait lui remettre une médaille en plastique imitation or pour le récompenser d'une vertu que les psychologues officiels avaient baptisée « docilité de mouton acquise ». Et la veille de cette visite, il fit un mauvais rêve. Il se vit habillé en Saint-Christophe, dévorant une fillette de 5 ans. Il la mangea entièrement, sauf les doigts des mains et des pieds. Il cacha chacune de ses 20 extrémités dans un jambon. Il murmura une phrase. Dans l'espoir du réconfort, on ne sent pas la souffrance. Il se réveilla en salivant. Il regarda autour de lui ses grappes de jambon et se mit à pleurer. Quand le président entra avec sa suite, il ne put se lever du fauteuil. En guise de salut, il lança juste un grognement, faible pour lui, assourdissant pour ses visiteurs. Aussi, la première dame, à qui revenait l'honneur d'accrocher le médaillon à l'énorme cou, s'approcha-t-elle de lui en tremblant des pieds à la tête. L'intense odeur d'adrénaline, les yeux trop ouverts et les poils hérissés de la dame réveillèrent chez l'ogre une voracité qu'il croyait ensevelie à jamais. Il la prit par les bras et en un clin d'œil les lui arracha. Ensuite, d'un coup de dent, il lui coupa la tête et la broya. Le cortège, jetant au sol le président, passa sur son corps en essayant d'atteindre la porte pour s'enfuir, mais l'ogre les ramassa comme s'il s'agissait des graines de raisin d'une appétissante grappe. Il ne lui fallut pas plus d'un quart d'heure pour les dévorer tous. Après s'être léché les babines et avoir éructé, satisfait, il se rendit compte de ce qu'il avait fait. 1000 sirènes ululèrent dans son cerveau et tous les conditionnements pacifiques piétinèrent son âme. J'ai laissé le pays sans gouvernement. Quelle atrocité ! Pleurant des larmes de la taille d'un pigeon, il se mit à lancer ses jambons par la fenêtre. Lorsque les murs furent nus et qu'en bas, l'armée, sortant de sa surprise, pointait sur lui toutes ses armes. Il ramassa les costumes déchirés, les chaussures de ses victimes et sortit dans la rue. Il tomba là à genoux, brisant les pavés. Ses lamentations firent vibrer les immeubles. la foule et les soldats, n'osant faire un geste ou prononcer un mot, observèrent son douloureux et sincère remords. Un général lança l'ordre de le fusiller. Le vice-président, qui, voulant fumer une cigarette, n'était pas entré dans l'appartement de l'ogre avec la suite présidentielle, l'interrompit. « Halte ! Cet homme n'est pas un criminel. C'est un justicier. Je peux à présent révéler que le défunt président volait l'or du pays, l'envoyant par sac plein, accompagné de la première dame, par voie diplomatique sur un compte bancaire en Suisse. Comme le haut commandement me revient à présent, je nomme notre ogre Don Virgilio González Vargas bourreau national. Tous les hommes politiques qui s'écarteront du sentier démocratique seront dévorés par notre citoyen patriote. Jusqu'à 110 ans, sans avoir besoin de jambon, bien nourri, aussi gros qu'une montagne, l'ogre vécut une vie paisible, recevant à chaque appétissante exécution les applaudissements du pays. Il mourut dans son immense lit en faisant le salut militaire. Il fut enterré, son long cercueil couvert du drapeau national. Au lendemain de son décès, le chaos éclata dans toute la République. La Bille. C'est encore un royaume, avec un roi qui, d'après les exigences du protocole, devait, une fois par an, sortir de sa forteresse dans un carrosse d'or, parcourir l'avenue centrale de la capitale jusqu'au grand parc où l'attendait son armée. Et là, il devait rendre les honneurs au drapeau. Rien de bien compliqué, sauf que ce roi tyrannisait impitoyablement son peuple. Son régime rapace avait semé un si grand mécontentement que le tyran craignait pour sa vie à chaque seconde. Il ne sortait jamais. Aussi, ses séides prirent toutes les précautions imaginables. Le roi fut couvert d'une maille d'acier. Le carrosse entouré de lanciers monté à cheval. Le chemin bordé de spadassins pour interdire que le peuple ne s'approche de la voiture dorée. Sur les toits et aux fenêtres furent disposés des milliers d'archers prêts à lancer leurs flèches au moindre geste suspect. Ils fermèrent les voies d'accès et ne laissèrent entrer que des citoyens qui avaient été jalousement enregistrés. Pour couronner ces précautions, ils mirent des boucliers sur le carrosse et un toit d'acier. Le défilé se mit en route. La foule, apeurée, n'osait bouger un doigt. Un vieillard qui éternua fut traversé de 100 flèches. Le fils d'un gardien, assis près de son père, jouait aux billes tandis que celui-ci surveillait les spectateurs. L'enfant, en voyant cette imposante et menaçante voiture, eut si peur qu'il laissa tomber l'une de ses billes. Celle-ci roula jusqu'entre les sabots des chevaux et alla échouer sous une roue qui, en passant sur elle, rebondit et sortit de son axe, entraînant le renversement du carrosse et la mort du tyran écrasé sous le poids de ses blindages. La connaissance. Il se trouvait au milieu d'un désert et regarda vers la droite et un arbre surgit sur sa gauche. Et il tourna la tête vers la gauche, l'arbre disparut pour réapparaître à sa droite. et jeta un coup d'œil en arrière, l'arbre apparut devant lui. Il regarda en avant, l'arbre poussa derrière lui. Il ferma les yeux. Il devint cet arbre. Cette nuit-là, le voleur était heureux. La maison, dans l'obscurité, n'était pas gardée. Il força la porte, entra et remplit son sac de trésors. Il partit en courant, sans regarder derrière lui. Lorsqu'il fut hors d'atteinte, il tourna la tête et s'aperçut qu'il avait cambriolé sa propre maison. Bouddha prêchait devant ses disciples pleins de révérence, les pieds appuyés sur un tigre endormi. Soudain, la bête ouvrit les yeux. Alors, Bouddha, n'étant que le rêve de l'animal, s'effaça. Le tigre gourmand dévora tous les moines. Le ciel des autres. Par un gris après-midi d'automne, une mouche bleue volait, ayant l'impression d'être le ciel tout entier. Les autres se moquèrent de la vaniteuse à qui mieux mieux. Honteuse, elle se cacha dans les ordures. Cependant, quand vint la nuit, son petit corps se remplit d'étoiles. Le retour. Affamé, il trouva quelques os complètement secs. Désespéré par la faim, il se jeta sur eux et se mit à les ronger. Il rogna nuit et jour sans que jamais la moelle ne s'épuise. Repu, il voulut se frotter le ventre, mais ne le trouva pas. Il s'aperçut qu'il était l'esprit d'un mort et que ses os étaient son propre squelette. Cauchemar. Le vieux sage se réveilla en hurlant. Il avait rêvé que la réalité était réelle. Le pouls du colonel. Un très humble pouls ne connaissait que l'aridité de la tête d'un simple soldat. Il ne se plaignait pas de son sort. Ses ancêtres, pendant des générations, avaient vécu sur ces hauteurs désertiques et ne connaissant que ses cheveux puants, se trouvaient incapables d'aspirer à meilleur logis. Mais le sort voulut que le colonel passât en revue la troupe en sueur. Tous les soldats se rangèrent et au moment même où le colonel passait devant notre soldat, le pouls, tout ému, leva l'une de ses pattes de devant pour faire lui aussi le salut militaire. Et c'est à ce moment précis qu'un brusque coup de vent, hop, le tira de son abri nauséabond et alla le déposer après un petit tour dans les airs. Ouh. Sur la tête du colonel. Aussitôt, dans les cheveux bien peignés et parfumés, L'insecte fut rempli d'orgueil. Oh oh, l'armée est sous notre commandement, s'exclama-t-il. Et une chaude sensation de pouvoir envahit son cœur. À partir de ce jour, il n'eut que mépris à l'égard de ses congénères. Bien plus, il pria le ciel que son chef les extermina, tant ils étaient sales et disgracieux. Accroché à la chevelure parfumée, il se sentit le maître du monde, obéi de tous. Mais bientôt, une mutinerie éclata. Et les soldats furieux, munis de lance-flammes, attrapèrent le colonel et le brûlèrent. Le pouls, bien qu'il ne cessât de crier, « Je suis innocent !» mourut grillé, comme la tête qu'il abritait. Et qu'est-ce que ces contes vont dire les auditeurs? Bien sûr, des contes bizarres, n'est-ce pas? Eh bien, c'était Alejandro Jodorowsky et les contes paniques. Puis de toute façon, l'émission, c'est contes à rebours, on a l'habitude, c'est bizarre, c'est comme ça, mais ça fait plaisir. C'était Marco, contes à rebours, et je vous dis à la semaine prochaine.